Arcagna, Jacques Lavergne, bonjour. Arcagna, l'émission résiliente, c'est une triste chose de songer que la nature nous parle et que le genre humain ne l'écoute pas, Victor Hugo déjà à l'époque. Sans plus de transition, je vous propose de nous transporter par la magie des ondes dans l'extrême sud de la France, très exactement à Banyuls, pour rejoindre le laboratoire Arago et notre invité Stéphane Hourdez.
Bonjour à tous, et bien aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui commence à venir un peu dans l'actualité, pas encore à la défrayer mais pas loin, ce sont les espèces invasives. Qui est l'une des principales causes de perte de la biodiversité. On chiffre ça à 60% d'extinction mondiale, on va voir si c'est vrai. Des espèces invasives qui sont le fait d'animaux, de plantes ou de micro-organismes. Très difficile d'y remédier à ces invasions biologiques qui posent de sérieux problèmes économiques. L'agriculture est touchée, le tourisme, l'immobilier et bien d'autres secteurs. Problèmes de santé pour les humains et bien sûr pour le milieu dans lequel elles s'implantent, les biotopes locaux ou locaux qu'elles bouleversent profondément. Donc tout cela est au moins aussi coûteux apparemment quand on regarde les chiffres que les phénomènes naturels. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux espèces invasives qui peuplent le milieu marin. Alors, n'oublions pas que les océans, c'est quand même 70% je crois de la surface du globe, 90% des échanges en volume passent par la mer, surtout depuis qu'on a inventé le conteneur, 99% des transmissions sont réalisées grâce aux câbles sous-marins, là où on pense que ça se passe dans l'espace, que c'est très éthéré, non, tout ça est très très matériel, quelque chose qu'il faut quand même avoir toujours présent à l'esprit, c'est qu'on ne connaît que 10 à 15% de la topographie du fond des mers, et on ignore quasiment tout de leur biodiversité, donc c'est un continent auquel nous devons nous intéresser. Alors je suis allé au laboratoire Arago, qui se trouve à Banyuls. Le laboratoire Arago, c'est un laboratoire qui dépend à la fois du CNRS et de la Sorbonne, qui est un observatoire océanologique, qui a été créé en 1881 par M. Lacaze Duthier, qui avait créé auparavant celui de Roscoff, et puis il est venu s'implanter à Banyuls, d'ailleurs il s'y est implanté définitivement, puisque je crois qu'il est enterré, enfin j'ai même vu sa tombe d'ailleurs, il est enterré dans l'enceinte du laboratoire. Alors pour parler de ces questions, eh bien, un spécialiste, un chercheur du CNRS, qui était avant Roscoff et qui maintenant a rejoint Banyuls, donc il connaît les deux sites. Il est directeur adjoint du laboratoire d'éco-géochimie des environnements benthiques. Il s'appelle Stéphane Hourdez. Merci Stéphane Hourdez de m'en recevoir.
Avec plaisir.
Et merci de me consacrer du temps dans des journées chargées. Je crois qu'elle a démarré très tôt ce matin avec des prélèvements de ce dont nous allons parler tout à l'heure. Le Collinectes sapidus, c'est ça ? Collinectes sapidus, le fameux crabe bleu. Mais ça, ce sera pour tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que le laboratoire d'éco-chimie des environnements benthiques ?
Alors, c'est un laboratoire qui regroupe des chercheurs et des enseignants-chercheurs qui s'intéressent au compartiment benthique, c'est-à-dire on s'intéresse à ce qui se passe au fond des océans, de très peu profond jusqu'à très profond. On travaille aussi en milieu profond dans le laboratoire. Et on s'intéresse beaucoup moins à ce qui se passe dans la colonne d'eau qui est au-dessus de ça. Donc, le benthos, le compartiment benthique, c'est vraiment le fond de la mer qui nous intéressait, les espèces qui y vivent et les communautés qui y vivent.
Je crois avoir lu que dans la mer, il y a une espèce de stratification avec des eaux de différentes températures et que cette stratification devient un peu gênante parce qu'il y a moins de mélange qu'il y en avait autrefois du fait du réchauffement climatique. C'est exact ?
Alors, on a l'été, quand l'eau réchauffe en surface avec le soleil, souvent cette eau-là devient plus chaude, moins dense, et donc on limite les échanges avec les couches d'eau qui sont en dessous de ça. Donc on a ce qu'on appelle une thermocline. Donc c'est vraiment une diminution rapide de la température. Les plongeurs le savent très bien. Quand on commence en surface ici, qu'on est à quelques mètres de profondeur, tout va bien. Et on passe en dessous d'une quinzaine ou une vingtaine de mètres, et on perd quelques degrés Celsius assez rapidement en descendant en dessous de cette hauteur-là. Donc, cette stratification, elle peut être brisée en cas de vent, par exemple. On a de la houle, du vent, et là, on peut remélanger. Ça brasse, absolument. Et c'est pour ça qu'ici, par exemple, à Banyuls, quand on a un coup de tramontane, on a des eaux de fond aussi qui remontent. Donc l'eau de surface est poussée un petit peu au large. Les eaux de fond remontent, et d'un seul coup, on perd 3, 4, 5 degrés Celsius en surface. Et donc, il faut attendre encore quelques jours que ça se réchauffe à nouveau.
Alors, vous êtes chercheur. Vous n'enseignez pas, mais vous cherchez, vous revenez d'ailleurs de Nouvelle-Calédonie, donc ça veut dire qu'à Banyuls, on s'intéresse non pas à la baie de Banyuls ou aux environs immédiats, mais on s'intéresse au monde entier.
Alors, pas que à la baie de Banyuls, hein, je travaille aussi ici, bien sûr. Moi, je travaille beaucoup à différents endroits du monde. Je fais beaucoup de biologie des sources hydrothermales profondes. On n'en a pas ici en Méditerranée. Donc, souvent, je voyage pour aller travailler sur ces environnements-là. Là, pour la Nouvelle-Calédonie, je suis correspondant du muséum pour la biodiversité des vers, annelés pour moi, donc des annélides. Et donc, je suis allé sur le terrain pour faire des prélèvements avec le muséum en Nouvelle-Calédonie. C'est dans le but d'un inventaire de la biodiversité. C'est des choses qu'on fait ici aussi en local. On a fait, fin de septembre, on avait une mission aussi avec le muséum à Leucat, donc beaucoup plus proche. Donc, ça fait partie de ces inventaires de biodiversité et des recherches que je fais avec le muséum aussi.
Question indiscrète, mais qu'est-ce qui vous a amené à ce métier ? Parce que quand même, vous êtes très spécialisé.
Alors, je suis à la fois très spécialisé et à la fois un touche-à-tout. Parce que la biodiversité, moi, je l'ai touché un peu plus tard, on va dire. Ma formation, c'était pour faire de la physiologie des organismes et physiologie comparée. Et donc, je suis venu un peu plus tard à ces aspects de biodiversité, on va dire. J'avais un bac scientifique, je suis arrivé à l'université. L'université m'intéressait, les grandes écoles ne m'intéressaient pas beaucoup. Assez rapidement, j'ai voulu me spécialiser vers le milieu marin, qui m'attirait, simplement, depuis tout petit. J'ai fait, à l'époque, c'était licence, DUG, licence, maîtrise. Maintenant, on dirait plus simplement licence, master derrière. Et j'ai fait une thèse en océanographie biologique.
Vous êtes plongeur ?
Je suis plongeur aussi, oui.
Bien. Alors, venons-en au sujet d'aujourd'hui. Les EE, dites espèces exotiques envahissantes, qu'est-ce que c'est que ces bestioles ?
Alors, typiquement, dans notre environnement, il y a des espèces qui ont évolué ensemble depuis des millions d'années, qui ont un équilibre écologique, avec des parasites qui leur sont spécifiques, etc., etc. On a un écosystème normal. Nous, avec nos activités humaines, on a déplacé certaines de ces espèces. Donc il y en a certaines qu'on a fait exprès. On a importé notamment l'huître creuse qui n'était pas d'Europe au début, elle est du Pacifique. On l'a amenée ici parce que l'huître plate d'Europe avait des gros problèmes avec des maladies. Et donc on s'est dit, on va mettre d'autres huîtres pour pouvoir commercialiser les huîtres. Cette huître creuse, elle n'est pas venue toute seule. Il y a plein de choses qui étaient attachées dessus. Donc on a en même temps importé des espèces sans le vouloir. Il y a aussi une voie majeure de transport des espèces, c'est par l'eau de ballast des bateaux. Donc les bateaux, pour avoir la bonne ligne de flottaison, vont faire rentrer de l'eau de mer pour s'alourdir un petit peu, et puis à un moment, ils vont arriver dans un autre port, et au contraire, ils vont devoir alléger le bateau pour pouvoir y mettre des containers, par exemple, et en faisant cela, on va relâcher l'eau qu'il y avait dans les ballasts. Et donc on va relâcher tout ce qu'il y avait dans cette eau. L'eau de mer, elle contient énormément de choses, dont des larves ou des petites espèces, et donc de cette façon-là, on a transporté dans le monde beaucoup, beaucoup d'espèces. La plupart du temps, on s'en aperçoit pas, jusqu'au moment où ça devient envahissant, invasif. Donc en Méditerranée, il y a eu un inventaire qui a été fait récemment, je crois que c'est plusieurs centaines d'espèces exotiques.
Donc quand on dit envahissant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'implante, ce qui pourrait, pourquoi pas, ça ne gênerait pas forcément trop le milieu local, mais ils vont s'attaquer à ce milieu local, ils vont attaquer les espèces endémiques, les plantes peut-être.
Alors, par exemple, ça peut être simplement, en fait, il n'y a rien pour les empêcher de se développer et se reproduire rapidement. Et donc, ne serait-ce que par compétition, ils vont porter préjudice à l'écosystème local. Donc, aux espèces qui ont un mode de vie très similaire.
Ça veut dire que, est-ce que toutes les espèces attaquent? Est-ce que tout arrive à s'implanter? Parce qu'en réalité, non. L'espèce exotique envahissante, j'ai cru comprendre de certains échanges qu'il n'y avait que 10% de ces espèces qui arrivaient qui étaient envahissantes, et sur ces 10%, 10% qui posaient problème, donc ce qui ferait 1% de la totalité. C'est quand même assez faible.
C'est très faible, mais l'impact est gigantesque. Quand il y a une de ces espèces qui se développe d'un seul coup, on perturbe fortement le fonctionnement de l'écosystème qui n'a pas évoluer avec la présence de cette espèce. Et donc c'est une grosse perturbation localement, donc ça peut être de l'écosystème en lui-même, mais aussi du système économique, on en parlera tout à l'heure, notamment avec les pêches, qui peuvent être fortement perturbées par la présence de ces espèces-là. Donc il y a certaines espèces qui peuvent être, on va dire, dans le bruit de fond la plupart du temps, et après, pour des raisons qu'on ne comprend pas bien, peut-être le réchauffement climatique les favorise de certaines conditions, les nombres vont commencer à augmenter fortement et on va se retrouver avec des très fortes densités de cette espèce qui va entrer en compétition avec d'autres qui, si elles sont prédatrices, vont consommer certaines des proies aussi et donc vont perturber fortement l'écosystème.
Donc c'est extrêmement gênant, mais est-ce que le réchauffement climatique est quand même pour beaucoup, j'imagine, puisque des espèces qui vivaient dans des eaux chaudes n'appréciaient pas trop nos eaux froides, donc jamais ne seraient venues, ou seraient mortes si elles auraient disparu, si elles avaient été amenées par l'homme. Et là, aujourd'hui, la mer se réchauffant, vos collègues Yves Devis, notamment, pour ne pas le nommer, m'avaient parlé de canicules marines. Je pense qu'il y a des espèces qui se trouvent très bien chez nous aujourd'hui, là où avant, elles n'auraient pas pu survivre.
Je pense que ces événements extrêmes de canicules marines, notamment, permettent d'avoir de bonnes conditions pour certaines espèces, mais en plus de cela, perturbent énormément l'écosystème tel qu'il avait évolué ici. Et donc, cet écosystème perturbé est toujours plus sujet à des invasions. Donc des espèces qui iront un petit peu mieux dans ces conditions-là, d'un seul coup, vont prendre une grande proportion. On a aussi, en Méditerranée en particulier, les espèces dites lessepsiennes. Elles viennent de mer Rouge, elles sont passées par le canal de Suez, et passant par le canal de Suez, ont pu s'installer en Méditerranée orientale déjà. Et donc là, on a déjà beaucoup de poissons, certains petits crustacés, il me semble, qui sont arrivés par le canal de Suez, et qui s'implantent fortement et très bien en Méditerranée orientale. Et en effet, l'eau se réchauffant, les conditions deviennent de plus en plus favorables à ces espèces qui sont normalement tropicales.
Ça veut dire que les animaux, comme les hommes, l'immigration, c'est naturel?
Alors ça, c'est une migration qu'on pourrait dire naturelle. On a ouvert une voie qui n'existait pas entre la mer Rouge et la Méditerranée, tout à fait. Et donc là, ces espèces-là, bon, de toute façon, il y a très peu de choses qu'on puisse faire pour empêcher leur arrivée. Ça arrivera de toute façon toujours par la mer Rouge. Après cela, il y a toutes les espèces qui ont été amenées à dessein ou par accident, par des transports maritimes, où là, on pourrait encore éviter de transporter ces espèces-là.
Donc ça veut dire que la multiplication des échanges, ben, on l'a vu au niveau du Covid.
Hein. Oui, tout à fait.
On a arrêté de circuler, on savait pourquoi. Et donc cette multiplication des échanges commerciaux ou touristiques, humains, peu importe, favorise ce genre de déplacement.
Tout à fait. Donc maintenant, il y a une réglementation un peu plus stricte pour les eaux de ballast de bateaux. Normalement, ils doivent rincer les ballasts en mer pour éviter de ramener des espèces littorales, on va dire, de la côte est des États-Unis, pour faire simple. Jusqu'ici, c'est des réglementations qui se mettent en place maintenant pour éviter ce genre de transport.
Et pourquoi une espèce va s'implanter dans un lieu plutôt que l'autre? Parce que finalement, ils arrivent ici, mais ils s'arrêtent ici. Je dis ici, mais ça peut être n'importe où, dans un lieu déterminé. Pourquoi ils s'arrêtent là et ils ne vont pas ailleurs? Qu'est-ce qui fait qu'une espèce va se fixer sur un territoire déterminé? plutôt qu'à aller ailleurs ou sur un autre territoire.
C'est tout le but de beaucoup de recherches en ce moment. On n'en sait pas assez sur la biologie de ces espèces-là, sur ce qui les favorise par rapport aux autres. On en reparlera tout à l'heure, mais pour le cas du crabe bleu, par exemple, on sait qu'il est présent en Méditerranée depuis 50, 60, 70 ans.
Oui, c'est pas une nouveauté. Donc.
C'est pas une nouveauté. Il était connu de façon sporadique, mais récemment, dans le delta de l'Èbre, il y a eu une explosion de taille des populations, dans le nord de l'Adriatique, donc chez nous, à côté ici, à la lagune de Canet-Saint-Nazaire, il y en a eu énormément pendant au moins 2 ans, là c'est redescendu, mais il y en a toujours. Et il y a eu des problèmes aussi en Corse l'année dernière, où ils ont eu une situation très similaire à ce que nous on avait eu dans la lagune de Canet-Saint-Nazaire les années passées.
Est-ce que ces mutations, ça touche aussi les cétacés, par exemple ? On a parlé des micro-organismes, de certains poissons, peut-être, qui viennent aussi ici s'implanter chez nous. J'ai entendu parler de la rascasse.
Alors, ça, c'est la rascasse volante, oui. Ce qu'ils appellent le poisson-lion en anglais. Alors, celle-ci, typiquement une espèce lacepsienne. Elle est remontée par le canal de Suez. Et en effet, elle est très présente en Méditerranée de l'Est. Elle est très belle. C'est un poisson d'aquarium d'eau de mer, connu depuis, enfin utilisé en aquariologie depuis longtemps. Et elle a vraiment très beau poisson, mais elle a des très beaux dards sur ses nageoires. Et si on essaye de l'attraper, on se fait empoisonner. Et les poissons qui essayent de les manger, de même.
De même.
Donc ils ont très peu de prédateurs. Et puis, donc elle est implantée ici, elle est implantée aussi en zone Caraïbe. Où là, c'est probablement plutôt un relâché de poissons d'aquarium qui a été mis en milieu naturel et qui s'est épanoui.
Alors pour revenir à ma question initiale, les cétacés sont affectés aussi par ce type de...
Pas à ma connaissance. Alors il y a des très grands cétacés qui font des très grandes migrations. Donc là, c'est nous qui avons un peu plus limité leur déplacement par l'activité de chasse qu'on a eu pendant de nombreuses années. Les cétacés ont tendance à avoir autrement des populations assez locales. On sait que, par exemple, il y a des orques du côté Alaska, au Canada, où il y a vraiment des populations locales, avec un accent local dans leur vocalisation, ce genre de choses-là. Donc, eux sont assez peu mobiles sur des longues distances, mais les autres sont de très grandes distances, donc sont de toute façon des grands migrateurs.
Donc, ça affecte plutôt ce mouvement... Les poissons et les micro-organismes et des plantes aussi, j'imagine.
Des plantes, absolument. On avait, tout le monde se souviendra de Colerpa taxifolia en Méditerranée, qui avait pris une très grande expansion. Et il semblerait que, un peu comme beaucoup d'espèces invasives, il y ait vraiment une explosion au début, avant de chuter rapidement. Il y en a beaucoup moins maintenant en Méditerranée, donc peut-être qu'il y a trouvé un équilibre. Mais est-ce qu'il faut qu'on attende cet équilibre, ou est-ce qu'on peut toujours se dire « ça viendra, ça retrouvera son équilibre ». Il y a d'autres algues aussi dans le Finistère, où il y avait des grandes sargasses, c'était pas des sargasses, pardon, des grandes cystosaires, je me souviens plus exactement du nom, enfin bref, des grandes algues qui avaient posé des problèmes aussi dans les années 70, où les gens prenaient leurs hélices dedans, c'était une catastrophe, et depuis elle a trouvé un équilibre aussi dans son environnement. Je ne dis pas que ça se passera pour toutes les espèces invasives, mais typiquement, il y a un moment où on retrouve un équilibre. Est-ce qu'on a le droit de se dire ça viendra et de ne pas s'inquiéter ? Je pense pas, parce que les conséquences et les perturbations sont telles que ça peut perdurer pendant de nombreuses années.
Il faut beaucoup de recul pour les percevoir, ces conséquences ? Des mois, des années, ça se compte en quelle durée ?
Nous, dans la lagune de Canet, on a vu ça très rapidement. Donc il faut dire que...
L'espace n'est pas immense.
L'espace n'est pas immense. Le crabe, il y avait un individu a été signalé pour la première fois en 2017, et puis quelques-uns les années suivantes, et puis d'un seul coup, en 2020-21, les nombres ont explosé. Et nous, il se trouve qu'on avait commencé un suivi du benthos, du compartiment benthique dans la lagune, et on a vu une diminution catastrophique des proies de ce crabe dans la lagune de Canet. Donc on a vu, parce qu'on avait un suivi, on avait une série temporelle, qui nous donnait une idée des variations normales dans cet environnement, on a pu voir que la présence du crabe, d'un seul coup, avait des conséquences dramatiques.
Ces espèces invasives, elles ne détruisent pas systématiquement les espèces endémiques. On a dit que ça concerne 1%, mais 1% extrêmement actif. Est-ce qu'il y a des... Je ne sais pas si le terme est bon, mais vous allez me corriger. Est-ce qu'il y a des croisements avec les espèces endémiques ?
Alors, non. parce que généralement elles sont très peu apparentées génétiquement. Donc normalement il n'y en a pas. Ce qui peut se passer par contre, c'est que on retrouve là le domaine de spécialité de Yves Desevise, on peut y avoir échange de parasites par contre. Donc il y a eu ce problème-là avec un parasite qui est venu en Europe et qui finalement aime beaucoup l'anguille européenne. Donc ça a fait aussi beaucoup affecter les populations d'anguilles européennes. Donc il peut y avoir des échanges de parasites, donc au-delà de l'espèce en elle-même, si elle est venue avec ses parasites, elle peut aussi contaminer, entre guillemets, des espèces relativement proches locales et affecter les populations par ce biais-là sans vraiment interagir directement avec elles.
Donc un effet indirect, mais qui est quand même puissant.
Qui peut être puissant, absolument.
Alors en quoi c'est gênant finalement de remplacer une espèce par une autre ? Parce qu'on pourrait se dire, oui, bon, une espèce endémique, aujourd'hui il y a une nouvelle espèce de crabe, de poisson, de plante qui remplace celle qu'il y avait. Quelle est la difficulté ?
Alors déjà, il y a une perte de biodiversité, parce que l'ensemble de notre planète, il y a une espèce qui disparaît. Même si localement, une remplace l'autre, il y a une perte de biodiversité. Donc une perte de ces informations, de cette valeur, de cette richesse qu'on a. Donc il y a déjà cela. Mais en plus, l'écosystème a évolué au cours des périodes historiques avec un équilibre avec cette espèce locale. Si on remplace cette espèce locale, elle va par exemple se reproduire à un autre moment, donc elle va pas envoyer des larves dans l'eau au bon moment. Ces larves dans l'eau elles-mêmes pourraient être la proie d'une autre espèce, donc ça peut avoir des effets ricochets assez importants. Donc si on regarde vraiment très localement, on se dit bon, pas énorme. Mais dans les faits, il y a vraiment des répercussions à beaucoup d'autres échelles que celles qu'on regarde.
Ça veut dire que la biodiversité, finalement, c'est comme un château de cartes ?
Ça peut. Donc l'espèce du crabe bleu américaine, là, elle est très bien à sa place aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Sur la côte américaine, ça fonctionne très bien. Voilà. Ici, elle perturbe beaucoup les choses. Alors, on a dans le delta de l'Èbre, mais aussi ici à Canet, on a une diminution de la fréquentation des oiseaux migrateurs qui viennent normalement dans ces espaces-là. Donc, on ne s'en rend pas compte. Mais
est-ce que le crabe bleu les attaque ?
C'est la théorie en tout cas, c'est ce qu'on pense. Depuis que le crabe bleu est présent dans le delta de l'Èbre, ils ont plus que 10% des oiseaux migrateurs qui passaient avant.
C'est considérable.
Et ces oiseaux migrateurs, c'est un des premiers points d'arrêt en Europe pour ces oiseaux migrateurs qui viennent d'Afrique. Et si on perturbe ce point d'arrêt, on va perturber les migrations de ces oiseaux, et donc on va encore affecter des animaux sur des distributions beaucoup plus larges que ce qu'on anticipait au départ. La lagune de Canet-Saint-Nazaire, c'est un site Natura 2000, notamment pour la vie faune, donc les oiseaux, et la vie faune migratrice. Donc c'est une des raisons de classifier cette lagune comme site Natura 2000, c'est la présence de ces oiseaux migrateurs.
Alors ce crabe bleu puisqu'on y est, là, quelles sont ses caractéristiques ? Qu'est-ce qui en fait un animal aussi terrible ?
Alors encore une fois, chez lui, il est très bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ici, donc c'est un crabe de relativement grande taille, hein, quand même les mâles adultes peuvent faire, on va dire, entre 500 et 700 grammes, c'est quand même des très belles bêtes, et qui sont, nous on le décrirait comme agressif, c'est-à-dire on approche nos mains, il va chercher à nous pincer, il se défend, hein, c'est pas non plus par simple méchanceté, on va dire, qu'il est comme ça. Mais il est aussi agressif vis-à-vis des autres organismes de l'environnement où il vit. Et donc ici, en l'occurrence, par exemple, dans la lagune de Canet, il y avait de très grandes populations de crabes verts, un crabe vert méditerranéen, qui est utilisé pour faire des fumets dans la soupe, des choses comme ça. Donc voilà. Et depuis qu'il est présent, en fait, les pêcheurs prennent beaucoup moins de crabes verts. Donc il y a certainement une compétition pour les ressources, mais aussi potentiellement, ils peuvent se nourrir de crabes verts ou simplement les repousser vers des endroits où ils ne sont pas. Donc il prend la place du crabe vert. Bon, on se dit, bon, comme vous disiez tout à l'heure, ben, ça fait que remplacer une espèce qui est là. Sauf que on le décrit aussi comme vorace, il a une croissance très rapide. Le problème pour les pêcheurs, c'est que notamment, il allait dans les filets pour aller chercher les poissons qui étaient pris dans les filets et il mange les poissons qui sont pris dans les filets.
Il coupe les filets aussi
Alors, il peut essayer, ouais, il peut couper les filets pour essayer de se sortir d'une situation difficile pour lui. Donc, les filets qui sont maintenant dans la lagune de Canet sont plus costauds pour pouvoir lui résister. Et donc, quand ils se retrouvent pris dans les filets, ben, ils en ont remonté beaucoup, les pêcheurs, hein, de ces crabes-là, sur une toute petite surface. C'est absolument extraordinaire ce qu'ils ont réussi à monter. Donc, il y a vraiment beaucoup de ces crabes-là.
Alors, ça, économiquement, ça affecte la pêche ou pas? Parce que s'ils remontent, ils remontent toujours des crabes. Et les crabes, ça se mange, donc ça se vend.
Alors, la pêche traditionnelle de la lagune de Canet, c'était la pêche à l'anguille. C'est là-dessus où il y a une valeur aussi patrimoniale importante. Et ils ne peuvent plus pêcher d'anguilles depuis plus de 2 ans maintenant. Ils en prennent très peu, ou s'ils les prennent, ils sont abîmés par les crabes qui sont dans les filets. Donc en effet, ce crabe est comestible. Ce crabe est comestible, il est très apprécié d'ailleurs aux États-Unis dans son aire de distribution naturelle. Et c'est un très bon comestible. Sauf que, si on se dit, ben, il n'y a pas de problème, du coup on va le manger. Mais c'est faire abstraction du problème qui cause dans son écosystème, de la perturbation qui cause dans l'écosystème. Donc, oui, on pourrait le commercialiser, oui, on peut le manger, il n'y a pas de problème, il y a quelques restaurants qui le font dans le coin pour marquer le coup un petit peu, mais ça n'en demeure pas moins que l'écosystème est fortement perturbé par sa présence.
Oui, ça veut dire qu'il a quasiment éradiqué les crabes verts et qu'il s'attaque aux anguilles, et qui va donc coloniser tous les temps de Canet.
Jusqu'à épuisement des ressources, en gros, parce que ça va forcément arriver à un terme. Donc ces crabes-là, ils ont réputation de pouvoir ouvrir des coquilles d'huîtres. On sait qu'ils sont fouisseurs, ils vont dans le sable chercher à manger. Nous, les populations d'un tout petit coquillage, un petit bivalve qu'on suivait, on était à 10% des densités qu'il y avait avant en présence du crabe. Les crabes verts, ils sont aussi à 10% de ce qu'ils prenaient avant, les pêcheurs. Et là, les pêcheurs sont vraiment de très bons observateurs. C'est eux qui ont déjà signalé la présence de quelque chose qui était inhabituel. Hein. Et puis aussi, ils nous disent « Ah ben, en ce moment, on a des femelles en train de se reproduire. » C'est très bons observateurs du milieu et des changements de ce milieu. Parce que on a certains de nos pêcheurs qui pêchent dans la lagune depuis 40 ans. Et donc, ils ont vraiment vu le changement au cours du temps et le changement dramatique qu'il y a eu récemment en présence de ce crabe.
Donc pour eux, c'est une nuisance.
C'est une nuisance. C'est absolument une nuisance.
Qui pourrait, si je comprends bien à terme, s'il n'y a plus d'oiseaux de passage, s'il n'y a plus d'anguilles, s'il n'y a plus de crabes verts, bon, c'est ce que certains appelleraient le grand remplacement, mais ils vont coloniser toute cette... ils vont assécher finalement la lagune, en termes...
En termes de biomasse de ressources, oui. Alors là, la lagune en ce moment, en plus, on parlait changement climatique tout à l'heure, est affectée aussi par la grande sécheresse qu'on a dans les Pyrénées-Orientales. Donc par rapport à avant, la salinité est beaucoup remontée, on a même plus de salinité qu'en eau de mer, la salinité est plus haute. Or, ce crabe aime l'eau saumâtre.
Ah,
donc la chance, entre guillemets, qu'on a en ce moment, c'est que les conditions ne sont pas bonnes pour ce crabe-là. L'appréhension des pêcheurs, c'est qu'avec les pluies de printemps qu'on va avoir, que les conditions redeviennent vraiment très bonnes pour le crabe. Et que donc, on se retrouve avec une situation qu'on avait eue il y a maintenant 2 ou 3 ans, où sur une petite surface, hein, c'est 4,8 km², et une année, ils ont sorti 10 tonnes de crabe bleu, et l'année suivante, 14 tonnes.
Ah oui, c'est considérable.
C'est considérable. Ouais. Et donc, la présence de quelques crabes pourrait ne pas modifier, perturber l'écosystème de façon conséquente, mais la présence de telle quantité de crabes, forcément, aura un impact.
Et le jour où il ne trouvera plus le crabe de quoi se nourrir, parce que ça arrivera, comme vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir ailleurs?
Alors,
aller assécher une autre région?
Alors, bah, c'est déjà commencé en Corse, hein, donc il faut savoir que ce crabe vit dans les lagunes, dans les zones d'eau saumâtre, mais ses larves se développent en mer. Donc les femelles, au moment où elles émettent leurs œufs, elles les gardent sous l'abdomen pour le développement, ce qui est normal pour un crabe, et puis au moment où les conditions sont bonnes pour cela, elles vont en mer, elles sortent par le gros, elles vont en mer, elles libèrent leurs larves, qui vont se développer pendant 3 semaines à 1 mois. Et pendant ce temps-là, elles vont se répandre sur des très grandes distances. Donc, à bout de ce mois-là, en gros, les larves viennent dans la lagune. Donc, je ne dis pas reviennent dans la lagune, parce que ce n'est pas forcément les mêmes. Ça vient probablement d'une autre population. Avec les courants, c'est entraîné sur de relativement grandes distances. Et donc, elles peuvent On peut avoir un recrutement, donc des jeunes larves qui arrivent et qui vont se devenir de jeunes adultes localement. On en a eu un l'année dernière de ces phénomènes de recrutement. Donc on a vu les tout petits crabes qui arrivaient et puis on les a vus grandir avec le temps. Dans le partenariat qu'on a avec les pêcheurs, on pêche régulièrement ces crabes et on mesure leur taille au fur et à mesure. Donc même si les ressources sont plus bonnes dans la lagune, c'est pas grave. Il y a d'autres endroits. Il y a d'autres endroits où ils sont présents, il y a d'autres endroits où ils peuvent vivre.
Alors, j'en reviens finalement à la question que j'avais posée tout à l'heure en général, mais là on a l'exemple précis. Pourquoi ils se sont installés là, ces crabes bleus? Qu'est-ce qui les a attirés là? Pourquoi ils y restent?
Alors, on a eu un programme de recherche financé là par la région Occitanie et par l'État pour essayer de comprendre cela justement. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on essaye d'apprendre le plus possible de ce qui s'est passé ici pour espérer éviter que ça se passe ailleurs. Parce que les lagunes méditerranéennes sont des environnements fascinants du point de vue du scientifique et très importants économiquement.
Du point de vue du crabe aussi, apparemment.
Du point de vue du crabe aussi, de toute évidence. Donc, il semblerait qu'il y ait un moment, ou peut-être sur deux années consécutives, des conditions qui étaient juste bien pour qu'il y ait beaucoup de larves qui arrivent, beaucoup de larves de crabe bleu qui arrivent, qui s'installent dans la lagune et qui y prospèrent. La lagune de Canet est assez particulière dans le sens où en moyenne on a 90 cm de profondeur d'eau. C'est vraiment pas profond, les conditions sont très variables là-dedans, et en fait il y a très peu de prédateurs des crabes. Donc ce serait par exemple la dorade royale ou le poulpe ou des sèches qui pourraient se nourrir de jeunes crabes. Et on n'en a pas beaucoup. Donc peut-être que l'absence de prédateurs pourrait expliquer en partie en tout cas le succès de ce crabe-là. Et puis aussi, il y a vraiment une combinaison de conditions qui font qu'à un moment, on a eu cette explosion. Donc probablement une arrivée massive de larves, on ne sait pas d'où, qui ont pu s'installer dans la lagune et trouver les conditions qui leur convenaient.
Alors comment on lutte contre ça? J'ai vu qu'il y avait certains programmes où on avait introduit, ce qui a encore bouleversé le biotope, on avait introduit des prédateurs. Le prédateur, au bout d'un moment, d'abord il n'attaque pas forcément la cible pour laquelle on l'introduit, et puis quand il n'y a plus cette cible, il se retourne contre les autres. Et donc on se retrouve avec une nouvelle invasion qu'il faut à nouveau gérer. Enfin, on a inventé là la machine...
La machine à invasion.
Oui.
Alors ça a été tenté à différents endroits, c'est généralement une mauvaise idée. On va pas essayer d'introduire une nouvelle espèce pour essayer d'en contrôler une autre. Ils ont essayé ça en Australie notamment.
Oui, j'ai vu ça.
Ils avaient un problème avec un charançon dans leur culture. Ils ont importé un crapaud qui se nourrit de ce charançon, et depuis ils ont de gros problèmes parce qu'il y a des crapauds partout qui ne se nourrit pas que de ce charançon là et qui pose aussi de gros problèmes dans l'écosystème.
C'est ce qu'on appelle le contrôle biologique, c'est ça ?
Contrôle biologique, oui. Donc dans certaines conditions, après énormément de tests, c'est quelque chose qui est envisageable. Mais chez nous, le milieu marin, c'est immense, c'est très vaste. Au moment de la fameuse colère-pâte axifolia, il avait été question d'importer des limaces de mer qui venaient d'Afrique du Nord, en se disant de toute façon elles ne survivront pas l'hiver, donc ça peut être bien, on en cultive, on les largue ici, elles peuvent s'en nourrir et tout va bien. Ça ne marche généralement pas très bien. Voilà. Donc il avait été aussi question pendant un moment d'importer des maladies. Les Australiens, toujours, ont eu un problème de lapins qui ont proliféré énormément. Ils ont fait venir la myxomatose. Ça a tué 95% des lapins, si mes souvenirs sont bons, les 5% restants étant résistants à la maladie. Donc les lapins se reproduisant énormément, on est revenu à la situation de départ. Donc le contrôle biologique, c'est quelque chose d'assez délicat à choisir et à faire. Et là, en milieu ouvert comme ici, un crabe qui est présent dans différents pays du pourtour méditerranéen, ce serait vraiment très difficile à faire. Donc quand on va dire, si c'est juste un lac, on peut dire, bon, on va faire un petit traitement ici, et tout va aller bien. Ici, on est quand même dans une situation où c'est pas si facile que ça à gérer. Donc le but de notre étude, nous, qu'on faisait à Canet, c'est de comprendre le plus possible à propos de la biologie de cette espèce, dans nos conditions ici, parce que dans son aire de répartition naturelle, il y a eu énormément d'études dessus, parce que c'est une espèce à valeur commerciale, ça a été beaucoup étudié. Ici, c'est différent. Donc nous, on regarde pas mal de choses, on regarde s'ils ont des parasites, les parasites sur des animaux qui vivent en très grande densité pourraient se répandre dans une population et limiter cette population. C'est pas impossible. Donc on a un volet sur les parasites. On essaie de comprendre quand ils se reproduisent, quand est-ce que les larves reviennent. Est-ce que simplement en fermant les vannes du gros au moment où les larves pourraient revenir, est-ce qu'on peut les empêcher de s'y installer et donc de nouveau de poser des problèmes? On regarde si le crabe pourrait essayer d'expliquer qu'il ait eu autant de succès, est-ce qu'il supporte mieux les conditions extrêmes qu'on peut avoir dans la lagune? Forte température, basse concentration en oxygène, haute ou basse salinité. On regarde tous ces paramètres-là pour essayer de vraiment mieux comprendre ce qui pourrait limiter ces populations ici.
Ça veut dire que l'homme, il a quand même un peu ouvert la boîte de Pandore, là, en se multipliant sur la planète et en s'échangeant à toute vitesse et de plus en plus. On parle d'impact économique extrêmement important, c'est même gigantesque. J'ai lu que ça quadruplait tous les 10 ans. Mm-hmm. On va aller jusqu'où, comme ça? Parce que là, on parle de 423 milliards en 2019. Et on dit, mais tout ça est quand même très sous-estimé, parce qu'on ne peut pas tout voir.
Bien sûr.
Très sous-estimé. Et que ce soit sur mer, sur terre par exemple, on parle à Toulon de la fourmi électrique, je ne sais pas ce que c'est, mais la fourmi électrique est présente depuis 2022. On parle de la petite fourmi de feu qui est actuellement en Sicile, qui paraît-il est très destructrice. C'est pour citer que deux exemples, qui eux sont sur terre. On va aller jusqu'où comme ça?
Mais alors, il y a des actions qui sont prises pour... maintenant, enfin, on ouvre les yeux, et des actions qui sont prises pour limiter l'installation de nouvelles espèces. Celles qui sont ici, ça va être plus difficile à gérer, mais l'installation de nouvelles espèces. Donc, il y avait cette histoire de remplacement de l'eau des ballastes, ou alors prendre de l'eau douce dans les ballastes, plutôt que de l'eau de mer. C'est possible, on charge dans un port avec de l'eau douce. Voilà, c'est une possibilité. On évite d'importer des plantes qui ne sont plus chez nous. Il faut arrêter. En Californie, où ils ont aussi beaucoup de problèmes d'espèces invasives, maintenant, il y a beaucoup d'actions pour inciter les gens à utiliser des plantes locales dans leur jardin plutôt que de faire venir des plantes de ces zoos pour les y mettre.
Il y a toujours des gens qui sont des inconscients ou des irresponsables qui vont relâcher dans la nature ce qu'ils ont amené chez eux qui ne leur convient plus. À une époque, il y avait ces fameuses tortues qu'on achetait pour les gosses.
Là, les tortues de Floride, oui.
Voilà, les tortues de Floride, on en retrouvait partout.
Il y en a ici.
Mais qui grossissent beaucoup plus en liberté qu'elles ne le faisaient dans leur aquarium.
Tout à fait.
Et donc
qui se reproduisent.
Oui, tout à fait.
Oui, non, c'est... Il y a quelque chose qui m'avait choqué à un moment. Je travaille beaucoup sur les vers annelés, les annélides, qui servent... Les poissons aiment beaucoup et donc qui servent d'appât pour la pêche. On importait des tonnes et des tonnes de ces annélides d'Asie pour servir d'appât. Espèces asiatiques qu'on importait ici par la tonne, vivants. Pourquoi est-ce qu'on faisait des choses comme ça? Je crois que là, on a arrêté, mais c'est des choses qui deviennent complètement hallucinantes. Pour la pêche, quelqu'un qui laisse tomber un ver dans l'eau, voilà, c'est parti. Il y a plein de choses qu'on faisait avant sans avoir conscience des conséquences potentielles. Maintenant, on se rend beaucoup mieux compte. Il faut changer notre façon de faire.
Alors l'Europe se protège parce que je crois que depuis 2015, il y a un règlement européen qui est censé encadrer tout ça. J'ai vu qu'il touche 88 espèces, j'avais noté 41 plantes, 47 animaux, qui visent à prévenir l'introduction ou la propagation avec des alertes précoces, des réactions un peu plus rapides, et où les États doivent rendre des comptes à l'Europe et dire qu'est-ce qu'ils ont fait. Certains États ont été d'ailleurs sanctionnés pour n'avoir rien fait. L'Italie, la France à une certaine époque, mais là on s'est un peu rattrapé, puisque dans le Code de l'environnement, c'est l'article... Ça, c'est l'ancien juriste qui s'attache à ça, l'article 411.5 et 411.6, qui, effectivement, plus deux arrêtés qui prévoient des sanctions importantes là-dessus. Mais encore faudrait-il pouvoir contrôler, regarder. Il n'y a pas aujourd'hui une police de l'environnement suffisamment étoffée pour pouvoir effectuer les contrôles nécessaires, voire la répression. Puisqu'on sait que pour certains hommes, à part la répression, rien ne marche.
Absolument.
Donc c'est quand même un peu inquiétant. Comment vous voyez l'avenir là, de tout ça? Ça se multiplie. Alors, on a dit, le droit essaye d'apporter une arme, mais on sait que le droit, c'est quand même pas forcément toujours ce qui marche le mieux. Vous faites des études, notamment dans ce laboratoire, on commence à être un peu documenté. Et alors ?
Et alors ?
Quel est l'avenir ?
On espère que les espèces qui sont en ce moment envahissantes vont trouver un équilibre dans leur environnement et que cet environnement récupérera rapidement. Parce que nous, dans la lagune de Canet encore, ça fait 2 ans que le crabe est en des proportions beaucoup plus faibles. On n'a pas encore retrouvé l'équilibre qu'on avait avant.
Ça veut dire que ça peut revenir. Vous disiez tout à l'heure, ce qui est gênant, c'est qu'ils détruisent l'écosystème local, ils s'implantent, peu importe après s'ils disparaissent, parce que l'écosystème local, lui, a disparu, originel.
Alors, très perturbé, disparu, l'écosystème ne disparaît pas. Il est très perturbé, il est déséquilibré, et ça peut prendre plusieurs années, plusieurs dizaines d'années parfois, pour retrouver un équilibre qu'il était celui qu'il avait avant. Après, on est aussi une période de changement majeur de notre environnement d'un point de vue climat. Et ça, en soi aussi, aura des conséquences. Donc, probablement une récupération plus lente ou une récupération vers un autre type d'écosystème derrière cela. Mais la combinaison des espèces envahissantes et de changement climatique font des perturbations importantes des écosystèmes et qui peuvent mettre très longtemps à récupérer derrière.
On peut dire que les espèces envahissantes, les hommes les ont amenées ou ont facilité leur arrivée, comme par exemple en perçant le canal de Suez. Est-ce que le réchauffement climatique va accélérer ce mouvement ?
Je dirais pas accélérer, mais par contre, en étant perturbateur de nos écosystèmes qui ont évolué dans un climat différent de celui vers lequel on se dirige, on rend l'écosystème plus sensible à la présence d'espèces non indigènes. Donc des espèces exotiques. On fait d'autres études ici sur les suivis de biodiversité à Banyuls, et on sait déjà qu'il y a certaines espèces qui, pour l'instant, sont en faible nombre, mais on les a détectées dans l'environnement, et on va continuer cette surveillance en fait, des espèces non indigènes qu'on a dans notre environnement. Et il est possible qu'avec le changement climatique qui se met en place, on va suffisamment perturber les espèces locales, indigènes, et permettre aux espèces non indigènes de prendre le dessus et de prendre leur expansion. On pense que c'est un des mécanismes, en tout cas, pour l'expansion de ces espèces envahissantes.
Donc c'est une note d'espoir.
L'espoir, pour moi, c'est qu'il ne faut pas en importer plus. Il faut prendre des actions pour éviter l'importation de nouvelles espèces. Celles qui sont là, on va les surveiller. Et quand on pourra prendre des actions pour limiter leur expansion, on le fera quand on le peut, quand c'est pas trop coûteux. Il y a certaines espèces en France qui posent de gros dégâts aussi, qui avaient été importées pour l'exploitation de leur fourrure. Je pense notamment au ragondin, qui, dans tout le marais Poitevin et même en Bretagne, creuse d'énormes trous sur les berges et qui les fragilise de cette façon-là. Il y a des choses où on avait une motivation économique à les importer et se sont échappés. C'est le cas des ragondins, ou les huîtres, c'est pareil, hein, les huîtres creuses, maintenant elles sont partout dans la nature, bien sûr. Et il faut qu'on apprenne de ces erreurs du passé, où on ne savait pas que ça allait poser de tels problèmes et qu'on limite ça. Enfin, donc, je suis optimiste sur les décisions qu'on peut maintenant prendre en disant on a du recul, on sait ce qui peut arriver, ne prenons plus les mauvaises décisions.
Alors, ça veut dire que les gens qui sont aux commandes, autrement dit les politiques, globalement, ont les moyens de savoir. Est-ce qu'ils ont le désir de faire ? C'est autre chose. Les enjeux économiques sont tels, et la cécité, alors volontaire ou involontaire, est telle face à ces problèmes qu'on peut s'interroger ?
Les hommes et femmes politiques ne pensent pas dans les mêmes échelles de temps que nous.
Ils pensent à leur prochaine élection.
On est d'accord.
Dans les 5 ans.
Dans les 5 ans.
On n'est même pas sur du moyen terme, on est sur du court terme.
On est bien d'accord. On a vu des suggestions de décisions pour régler nos problèmes d'accès à l'eau douce ici, où on parle d'aller creuser plus profond pour aller chercher des nappes phréatiques plus profondes. C'est dire aux générations futures, désolé, nous n'avons plus le choix, on a fait comme ça, et ben, vous vous débrouillez. Les générations futures, il ne faut pas qu'on leur laisse une planète dans un état encore pire que ce qu'on a en ce moment.
Vous savez ce que disait Groucho Marx, hein ? Pourquoi je ferais quelque chose pour les générations futures quand elles font que pour moi ?
Oui,
c'est un peu ça.
Mais les générations futures, ce sont... Alors, moi, j'encourage beaucoup les jeunes autour de moi à prendre plus part dans une vie politique active, et au moins dans le sens d'aller voter. et de voter pour des gens qui ont des idées qui sont proches des leurs et pas simplement des gens parce qu'ils sont là depuis longtemps et qu'on fait que les maintenir en place.
Donc vous pensez que nous allons arriver un jour à freiner ces espèces invasives, à protéger notre milieu, à faire que... Parce que ce qui sera peut-être le plus déterminant pour l'homme politique, c'est le coût de ces espèces invasives. On parlait tout à l'heure de centaines de milliards par an, avec une augmentation exponentielle. C'est quelque chose qui, à un moment ou un autre, devrait sensibiliser l'homme politique avec sa vision à 5 ans.
Ben, je le pense, je l'espère. Je nous vois bien limiter l'implantation de nouvelles espèces. Encore une fois, le remplacement de l'eau des ballasts, ce genre de choses-là, c'est des solutions peu coûteuses et qui auront des conséquences immenses sur notre futur. Donc il y a certaines décisions qui me semblent faciles, même pour des hommes politiques et des femmes politiques. Il y en a d'autres qui sont plus délicates quand il s'agit d'investir des milliards, mais pour en économiser 100 fois ça. Donc il est difficile de les convaincre en effet à 5 ans parce qu'on n'a pas la même échelle de temps.
Est-ce que vous avez le sentiment, vous qui savez, qui êtes des chercheurs, est-ce que vous avez le sentiment d'être écouté? Le sentiment que ce que vous faites, vos études, vos recherches, vos conclusions sont utiles?
Oui, mais il y a aussi une catégorie de la population qui ne sait pas toujours bien transmettre l'information, la transmettre de façon concise et claire pour que les bonnes décisions politiques soient prises derrière du point de vue de nos résultats scientifiques. Nous, scientifiques, généralement, on fait des études, elles sont généralement non biaisées, on n'a pas de conflit d'intérêts, et on donne notre opinion, et on donne notre opinion sans a priori. Les hommes et femmes politiques n'ont pas forcément accès aux opinions, à ces opinions-là. Je vais reprendre, je suis désolé, j'ai utilisé un terme que j'aurais pas dû utiliser. C'est pas une opinion, ce sont des résultats scientifiques. On a une idée de ce qu'il faudrait faire. Ça pourrait, scientifiquement, on peut proposer de faire des choses. Et ces informations-là, il faut qu'on trouve un canal pour les transmettre et les transmettre de façon intelligible pour tous dans la population et aussi au niveau des décideurs politiques. Et ça, c'est pas évident.
C'est un peu pour ça qu'on est là ce matin. Hein,
on est d'accord.
Essayer non pas de transmettre un message, mais une information en disant regardez comment on vit, regardez dans quel état se trouve la planète, et nous savons aujourd'hui que l'action de l'homme, c'est elle qui a bouleversé complètement le système, y compris sur ces fameuses espèces invasives. Donc, vous êtes optimiste pour l'avenir? Moi, je parle souvent avec des scientifiques dans l'émission Arcania. C'est vrai que beaucoup, tant que le micro est allumé, montrent un optimisme raisonné. Une fois qu'il est éteint, j'entends des choses un peu contraires, en me disant, vous comprenez, on ne peut pas être totalement pessimiste, sinon... Mais beaucoup de gens n'y croient plus trop à la possibilité d'un retour en arrière, au moins de stopper la catastrophe, de ralentir, d'amoindrir la catastrophe qui paraît s'annoncer.
Il y a un petit dicton qui dit, ça ne sert à rien d'être pessimiste, ça ne marcherait pas. Il y a de l'espoir, franchement, il y a de l'espoir, et ça demande assez peu de choses que de se donner les meilleures chances pour l'avenir. Et je me rends bien compte que arrêter la consommation des méthodes de production d'énergie qui produisent du CO2, c'est pas quelque chose qu'on va faire du jour au lendemain. Il y a des choses où, en effet, ça va prendre du temps à changer notre société. Mais on peut le faire. On l'a fait avec les CFC dans les années 80. On avait cet énorme trou dans la couche d'ozone. Il y a eu une décision, parce qu'il y avait des alternatives, soyons clairs, hein, qui a été prise de dire c'est fini, les CFC, on arrête.
Qu'on puisse le faire, c'est sûr, il y a des possibilités. Mais on n'a pas l'air de prendre pour l'instant les bonnes solutions. Celles déjà d'une relative sobriété, ce qui serait une bonne chose. Donc on peut quand même être un peu inquiet parce qu'il y a une course contre la montre aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a peut-être des solutions, peut-être que pour l'instant il n'y a pas la pensée magique et les solutions techniques qu'on nous propose, la captation du CO2 extra, tout cela n'est qu'à l'état très embryonnaire. Donc ce ne sont pas des solutions pour l'immédiat, mais c'est une course contre la montre.
Je vais rebondir sur la captation du CO2, parce que moi en tant que scientifique, ça veut dire, c'est comme pour le plastique. Il n'y a pas de problème, on le recycle, donc on peut continuer à en faire. Il n'y a pas de problème, on va le capter le CO2, donc on peut continuer à en faire.
Ce qui est faux, puisqu'on ne recycle pas le plastique ou dans des proportions, pour des raisons techniques, hein, dans des proportions très très minimales. Mm-hmm. Il y a eu un très beau rapport qui a été fait sur la pollution plastique par une sénatrice que j'ai eu le plaisir de recevoir dans cette émission et un député. Très beau rapport, très renseigné, très documenté. Il est très agréable à lire. Au-delà, ça n'a servi à rien. Voilà. Aucune décision n'a été prise. Voilà.
Moi, j'ai l'impression aussi que c'est beaucoup le citoyen qui va faire bouger les choses.
Pour autant qu'il soit informé.
Qu'il soit renseigné.
Et alors, c'est quand même difficile de penser en se projetant en dizaines d'années, parce qu'il faut savoir que ce que nous faisons aujourd'hui, tous les efforts que nous mettrons en œuvre et que nous devrions mettre en œuvre, ne profiteront que à nos successeurs dans une trentaine d'années, on le sait.
Oui, c'est. Mais les gens ont des enfants et des petits-enfants et veulent que leur famille ait une belle vie derrière. Et c'est notre façon de nous projeter dans l'avenir aussi. Et donc, se dire. Moi, ça me gênerait beaucoup de me dire bon, bah, ces enfants que je vois dans la rue, dans 50 ans, ils auront des conditions horribles pour vivre. Et en tant que société, ça me dérange beaucoup d'accepter des décisions où. Récemment des décisions politiques où on recule sur l'interdiction de certains pesticides notamment, parce qu'on n'a pas d'alternative, mais oui, mais il fallait investir massivement pour les alternatives, à la rigueur, il faut faire quelque chose. Ça me choque que pour raison politique, raison de réélection, on dise non, bah, finalement on revient en arrière. Et revenir en arrière, c'est se tirer une balle dans le pied et avoir encore plus de mal à aller vers l'avant pour la suite. Et donc, je reste optimiste, soyons clairs. Notre planète, elle survivra. Notre société.
Oh, ben non, non. L'Homo sapiens disparaîtra comme d'autres humanités avant lui. Les Néandertaliens, les Denisoviens et quelques-uns, il y en a une petite dizaine qui nous ont précédés, qui ont disparu. Ça n'a pas affecté la planète pour autant.
Non, 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 la planète continuera.
Mais l'Homo sapiens se met en danger. On va rester optimiste puisque vous l'êtes, Stéphane Ourdès. Merci de cet échange. Merci de m'avoir reçu à ce laboratoire Arago. Et puis, je pense que dans les mois à venir, on aura peut-être l'occasion de se recroiser pour parler de ces questions qui sont absolument fondamentales pour la survie, comme on l'a dit, de l'Homo sapiens. Merci, à bientôt.
Merci, au revoir.
Restons dans un milieu aquatique, mais en musique cette fois, avec Bobby Lapointe et sa maman des poissons.
On ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde. C'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elle reste muette. La maman des poissons, elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent quand ils ont envie et quand ça a dîné sardine. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, s'ils veulent prendre un petit verre, elle les approuve de deux oui, leur montre en comment sans ennui, on les décroche de leur patère. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils, ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, s'ils veulent être maquereaux, c'est pas elle qui les empêche de se faire des rêbles sur le dos dans un banc à peinture fraîche. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils, ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, j'en connais un qui s'est marié à une grande république. Il dit quand elle lui fait la nique, ah qu'est-ce que tu me fais marrer. la maman des poissons. Elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. Ce qu'il en ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elles restent muettes. La maman des poissons, elle est bien gentille.
Eh bien voilà, nous arrivons à nos rubriques de fin d'émission et on va commencer par le « ça va mieux ». Jamais la Cour européenne des droits de l'homme, autrement appelée CDEH, ne s'était prononcée sur la responsabilité des États en matière d'action contre le changement climatique. Eh bien, ladite CDEH a rendu un arrêt condamnant la Suisse pour violation de la Convention européenne des droits de l'homme, après une requête qui était portée par 2500 femmes, qui dénonçait, je cite, « des manquements des autorités suisses pour atténuer les effets du changement climatique », fermez les guillemets. Et selon elle, il y a des conséquences, tout cela a provoqué des conséquences négatives sur leurs conditions de vie et de santé. Et donc la CDEH devait dire si les États visés avaient enfreint la Convention, et en particulier le droit à la vie, qui est selon l'article 2, et le droit au respect de la vie privée et familiale, qui est l'article 8, en ne luttant pas suffisamment contre le réchauffement climatique, alors qu'un nouveau pic de chaleur au niveau mondial a été enregistré au mois de mars. Alors que croyez-vous qu'il arriva ? Eh bien, une majorité de 16 voix contre une, la CDEH a établi, pour l'affaire suisse, qu'il y avait eu violation du droit au respect de la vie privée et familiale de la Convention, et à l'unanimité, violation de l'article 6, qui est le droit à un procès équitable, et donc la CDEH affirme ainsi que l'article 8 consacre le droit à une protection effective par les autorités de l'État contre les effets néfastes graves du changement climatique sur la vie, la santé, le bien-être et la qualité de la vie, n'en doutons pas, c'est un arrêt qui fera vraisemblablement jurisprudence. Et pour terminer un conseil culturel, entre guillemets, bien, je vais vous recommander la lecture d'une BD qui s'appelle « Vers de rage, les enfants de plomb », Vers de rage, les enfants du plomb », chez Michel Lafon. Ça a été écrit par Martin Boudot et dessiné par Sébastien Piquet. Une BD sous-titrée « Enquête au cœur de la zone la plus polluée de France ». Et ça se passe dans le nord de Calais, le nord Pas-de-Calais, ça vous étonnera pas, où des centaines d'enfants ont été atteints de saturnisme, la maladie d'intoxication au plomb entraînant des troubles neurologiques irréversibles. Alors comment est-ce possible, 20 ans après la fermeture de l'usine qui polluait la région ? Eh bien Martin Boudot, journaliste d'investigation, qui mène son enquête dans une région surnommée la plus grande zone polluée de France. Entre témoignages et révélations, Martin et son équipe de Vers de rage forcent les portes des mairies, des tribunaux, des multinationales pour lever le voile sur l'un des plus grands scandales sanitaires et environnementaux de notre temps. À lire absolument, très beau dessin, ligne très pure, je vous le recommande, Vers de rage, les enfants du plomb de Martin Boudot et Sébastien Piquet. Voilà, c'est la fin de cette émission. C'était Arcania, une émission de Jacques Lavergne, avec à la réalisation Léo Touroult. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission, ainsi que ceux de toutes les autres, sur le site d'Esprit Occitanie, bien évidemment. À très bientôt pour une nouvelle édition d'Arcania. Belle journée à toutes et à tous.